Vous allez entendre le message poussé à bout, prêché le 1er septembre 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Restons debout un instant maintenant alors que nous inclinons la tête. Seigneur Jésus, nous ne faisons que croire. Tu nous as dit de croire seulement et nous croyons maintenant. Et nous te remercions et te louons pour ce que nous avons déjà entendu et vu. Cela ancre notre foi. Comme nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir apporter la parole à ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, je te prie, Dieu, d'accorder nos besoins ce soir selon ta promesse. En le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Nous sommes très heureux ce soir pour ce privilège de revenir au tabernacle de nouveau pour avec l'Évangile du Seigneur Jésus ressuscité. Et j'étais juste un peu en retard. Je viens tout juste d'avoir un cas d'urgence spécial du Michigan et le Seigneur vient de faire une chose merveilleuse pour elle. Oh là là, comme il connaît tout et l'a préparé juste, nous n'avons pas besoin de lui dire. Il sait exactement ce que c'est. Ainsi, nous sommes donc très reconnaissants. Ces gens ont conduit toute la journée pour arriver ici. Et alors, nous sommes si reconnaissants pour cela. Maintenant, n'oubliez pas cette bande enregistre. Oh, le bouton de lumière, je vois. N'oubliez pas les services de la semaine prochaine, mercredi soir, dimanche matin et dimanche soir prochain. Si vous êtes dans les alentours, dans le quartier, je sais qu'ils seront certainement heureux de vous accueillir ici. Et maintenant, priez pour moi alors que je continuerai ma route quelque part ailleurs et j'espère être de retour bientôt. Je tiens à tous vous remercier pour votre gentillesse et les souvenirs de ce que vous avez fait pour moi. Et un frère vient juste de m'envoyer un nouveau complet d'une petite église en Géorgie. Et ces gens, c'est tout simplement merveilleux. Et je tiens à remercier ces gens du Kentucky avec qui j'étais la semaine dernière pendant les vacances et tout ce que le Seigneur a fait pour nous là-bas, sa grande main puissante que nous avons vue, ce qu'il a fait. Maintenant, nous sommes confiants de vous revoir très bientôt, aussitôt que je repasserai par ici pour aller à la réunion de New York. C'est à l'église de Stone avec frère Vic. Pour commencer, je crois que c'est le 12 novembre. Et nous serons par ici quelques jours avant cette date. Ensuite, nous repasserons de nouveau en allant à Shreveport, en Louisiane, avec frère Jack Moore. C'est à l'Action de grâce, la semaine de l'Action de grâce. Nous serons à Shreveport. C'est sur le tableau d'affichage, je pense, en arrière là-bas avec les annonces. Et ensuite, nous espérons être avec quelques-uns des amis du Sud après Noël. Et nous serons à Phoenix en janvier. Puis nous attendons l'appel à l'étranger afin que nous puissions préparer les réunions à l'étranger. Ils travaillent là-dessus présentement. Ce mois passé, frère Borders a fait un va-et-vient de correspondance pour une tournée mondiale complète qui commencera dès que nous l'aurons préparée, mais nous devons attendre certaines conditions. La foule est si grande là-bas, on ne peut pas les rassembler dans les bâtiments. On doit les faire asseoir par terre et puis des fois, ils se lèvent pour courir. C'est presque incroyable, leur nombre parfois jusqu'à 500 000. C'est 1,5 million de personnes en un seul rassemblement. Ce n'est pas la quantité qui assiste à toutes les réunions, mais bien un seul rassemblement. Vous savez, généralement, les évangélistes comptent combien de personnes ont assisté pendant 6 semaines. Vous voyez, mais nous comptons combien il y en a eu ce jour-là, à ce moment-là. Et parfois, il n'y a pas de place pour les faire asseoir. Vous savez, il nous faut simplement les faire asseoir par terre. Et nous devons y aller durant les saisons où il ne pleut pas, quand la pluie se déverse et ces pauvres gens sont assis là. J'ai vu des femmes assises là avec leurs cheveux pendants, les hommes bien habillés, juste assis sous cette pluie toute la journée. Ils restent simplement là, sous la verse et le tonnerre, les éclairs et les tempêtes qui souffrent et qu'ils se blottissent les uns contre les autres comme ça en restant là-bas, attendant que vous veniez prier pour eux. Voyez, maintenant vous savez que Dieu honore une telle foi, certainement. Vous devez faire quelque chose pour que Dieu l'honore. Vous voyez, vous lui montrez. Les gens qui obtiennent tout si facilement habituellement, ils ne font rien pour ça. Vous voyez, vous devez, le don est gratuit. C'est vrai, mais vous devez, ça semble être comme ça. Vous savez, comme ils disent, et si vous êtes né avec une cuillère en argent, vous avez déjà entendu ça, vous ne l'appréciez pas. Mais quand vous devez travailler pour cela, vous avez apprécié la valeur de la chose. Maintenant, vous, les gens sur les bandes là-bas, je voudrais que je pense maintenant que Ce matin, le message de ce matin était, selon moi, le point culminant de tous les messages de mon ministère. Ce matin, vous voyez, le point culminant de tous les messages de mon ministère. Un jour, je vous dirai comment cela est venu. Et je sais que tout s'est enligné depuis des mois jusqu'à ce que ce message se dirige à cette... C'était son moment de couronnement, vous voyez? Et c'est un... Je suis sûr ou j'espère que vous avez compris ce que signifiait le signe, vous voyez? Le signe est l'évidence que le sang a été appliqué, que le prix demandé, exigé de Dieu, Jésus a payé ce prix en versant son propre sang. Il l'a fait. Puis, de sa vie est venu le Saint-Esprit. Et quand le sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est un signe que votre prix est payé. Dieu vous a reçu. Et c'est le signe. Rappelez-vous, c'est le signe. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est ce signe, voyez. Et vous devez considérer comme si personne ne le savait, voyez, afin que tous puissent l'obtenir. Tout comme la prédication du salut, nous devons prêcher le salut de telle sorte que tout le monde, que c'est pour tout le monde, ce qui, nous le savons, ne l'est pas. Nous devons prêcher la guérison divine pour tout le monde, mais nous savons que ce n'est pas pour tous, voyez. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient dans le livre de la rédemption avant la fondation du monde. Il est seulement venu pour sauver ceux-là. Qui ils sont, je ne sais pas, voyez. Mais vous, personne ne peut avoir la foi à moins que vous disiez que c'est pour quiconque et ça l'est. Personne ne peut venir à moins que Dieu ne les a appelés. C'est vrai, il y a donc beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés, nous le savons. Et bien, Dieu savait avant la fondation du monde qu'ils ne seraient pas sauvés. Il y en a beaucoup qui ne seront pas guéris, voyez, beaucoup ne seront pas guéris, ils ne le peuvent tout simplement pas, ils ne peuvent pas le saisir, ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup seront comme ça, mais nous prêchons que c'est pour tout le monde parce que nous ne savons pas qui est cette personne, nous ne le savons pas, mais c'est pour quiconque. Par contre, certaines personnes ne peuvent pas saisir cette foi. Bon, c'est la même chose avec ce signe. Le signe, nous avons parlé du signe tout le long, mais maintenant, c'est la manifestation du signe, voyez. Maintenant, nous l'avons parfois permis, les luthériens l'ont permis, accepter la parole, accepter Christ comme sauveur personnel. Les méthodistes ont dit, lorsque vous êtes assez heureux pour crier, vous l'avez. Le pentecôtiste dit, parler en langue, alors vous l'avez. Et nous découvrons que tout cela était faux, vous voyez. Le signe est le signe. C'est vous et Christ en tant que personne réunie, vous voyez. C'est le Saint-Esprit, sa vie en vous, œuvrant sa propre vie à travers vous, et c'est pour le riche, le pauvre ou pour tous ceux qui le recevront. Maintenant, rappelez-vous, le signe est ce que vous allez à la compagnie ferroviaire et vous achetez votre passage. Il y a un prix, un coût. Disons que ça coûte 50 cents pour monter à bord de cette compagnie d'autobus ou de chemin de fer d'ici à Charlestown, Indiana. Ça coûte 50 cents. Eh bien, maintenant, la société publique publie ses billets pour que, voyez, maintenant, ce que vous faites, vous descendez et quelqu'un paie votre passage, 50 cents. Il vous donne un billet qui vous donne accès sur ce train jusqu'à sa destination, partout où ce train ira, voyez. Cela vous donne, c'est un signe. Maintenant, dans ce cas-ci, le sang était le signe. Littéralement, il fallait l'appliquer, car il s'agissait simplement de la chimie, c'est tout ce qu'il savait. Car il s'agissait du sang d'un agneau, d'un animal, du sang d'un agneau. Or, la vie qui était dans le sang, la vie qui était sortie, car le sang avait été versé, voyez, la vie en était sortie, mais il ne pouvait pas revenir sur le croyant parce que c'était un animal. Mais cela ne parlait que d'une bonne conscience, qu'il y en avait un qui allait venir, un sacrifice parfait. Et pour que cela en soit un parfait, tout le jury, le Dieu du ciel, est devenu le sacrifice. Le juge, le jury et l'avocat, voyez, il est devenu le sacrifice. Et alors, quand sa vie est sortie, ce qui était Dieu, et le mot là d'où il vient, et je leur donnerai la vie éternelle. Maintenant, dans le grec, je sais que je parle à des érudits, j'en vois deux ou trois, voyez. Et ce mot dans le grec, c'est zoé, z-o-e. Dans le grec, cela signifie la vie même de Dieu. Et je lui donnerai zoé. Ma propre vie, Christ et Dieu étaient un. Alors la vie qui était en Christ est le Saint-Esprit par la troisième personne, mais la même personne sous la forme du Saint-Esprit venant sur vous comme un signe que votre vie et votre passage sont payés, vous avez été acceptés. Avant que ce signe soit là, vous n'êtes pas autorisé sur l'autoroute. Vous n'êtes pas autorisé dans la compagnie d'autobus. Vous n'êtes pas autorisé à y entrer avant que vous puissiez présenter ce signe. Et ce signe est votre prix. Maintenant, cela montre que le sang a été répandu et appliqué sur vous, que le prix a été appliqué sur vous et que vous avez le signe que le sang a été appliqué sur vous et que vous êtes accepté. Vous le saisissez maintenant? Amen. Oh là là! Maintenant, pas juste une certaine évidence, vous voyez. Vous dites, Frère Branham, je le sens dans votre pensée, vous voyez, pourquoi vais-je le savoir? Regardez ce que vous étiez et ce que vous êtes. Voilà comment vous le savez, vous voyez. Qu'étiez-vous avant que ce signe ait été appliqué? Qu'êtes-vous après qu'il ait été appliqué? Quels étaient vos désirs avant et quels sont vos désirs après? Alors, vous savez si le signe est appliqué ou non. Et ces autres choses vont automatiquement avec cela, vous voyez? Ce n'est pas comme d'en parler, de dire les langues sont l'évidence. Maintenant, je vais supporter acheter une paire de chaussures. La languette n'est pas la chaussure. Cela vient seulement avec la chaussure, vous voyez? Cela vient seulement avec la chaussure, vous voyez? Maintenant, c'est la même chose que le signe. Le signe est Christ, mais le parler en langue, chasser des démons, faire ces choses et prêcher et quoi d'autre, c'est la preuve que c'est là, c'est vrai, mais ce n'est pas cela. Vous voyez, c'est un don de cela. Si je vous disais que vous dites, je vous veux, Frère Branham, et je vous donne un don, vous voyez, eh bien, ce n'est pas moi, c'est mon don. Les langues sont un don du Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit, un don du Saint-Esprit. Et le diable peut imiter n'importe quelle de ces choses, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit, voyez? Il peut imiter ses dons, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le signe que le sang a été appliqué, car il suit le sang tout le long depuis le livre de la rédemption, vous le voyez? C'était le but de sa venue. C'est ce qu'il a suivi dans chaque âge. Dans chaque âge, il a suivi cela pour veiller à ce qu'il produise et il ne peut être rendu parfait sans nous. Et maintenant, le Saint-Esprit entier visite l'Église, faisant apparaître Dieu dans une chair humaine, comme il l'avait fait avant Sodome, le feu là-bas, qui était un type. Ensuite, il est apparu à Abraham et toutes les choses qu'il n'a pas faites à travers les âges, dans les âges de l'Église, il les fait maintenant. De retour à la parole, car les messages doivent se rejoindre dans la parole entière. Et dans les derniers jours, les sept seaux qui sont ouverts étaient pour ramasser tout ce qui restait, qui avait été laissé, de tout rassembler dans le grand corps de l'épouse, car ceux qui ont vécu avant n'étaient pas parfaits, parce que jusqu'à ce que cette église soit rendue parfaite, ce groupe de l'épouse, dans les derniers jours, pour les faire entrer et être pris tout ensemble dans l'enlèvement, vous voyez? Le signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est parmi nous. Nous devrions respecter cela. Nous ne pouvons pas nous humilier assez. Enlevez vos chaussures et vous mettre à genoux, ne l'atteindrez pas. Ça ne le satisferait pas. Ça ne nous suffirait pas, mais une vie qui produit le fruit de l'Esprit. Maintenant, quel est le fruit de l'Esprit? Vous voyez, l'amour, la joie, la paix. Vous rappelez-vous ce matin, la préparation, il a envoyé le message avec le messager avec le message. La chose suivante qu'il a faite après avoir envoyé le messager avec le message, il a envoyé la colonne de feu pour le confirmer. La chose suivante après cela a été une consolation, voyez. Vous saviez que c'était juste, vous étiez en paix. Nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, voyez. Maintenant, ce soir, nous allons prier pour les malades et je pense qu'ils ont la communion. Vous allez avoir le baptême et le service de baptême. Seulement la communion. La communion, et nous voulons que vous restiez pour la communion. Et dans 35 ou 40 minutes, nous envisageons d'avoir fini et d'être prêts pour la communion. Et bon, demain, c'est le jour de la fête du travail. Donc, vous pourrez, en quelque sorte, vous reposer. Maintenant, j'ai dit que ce qu'étaient nos intentions, vous voyez, nous ne savons pas à quelle heure. Je vais être sûr de faire ça comme il faut. Maintenant, ce matin, je vous ai dit que n'étant pas avec vous, je pense que nous avons eu un autre message de 2 ou 3 heures ce matin. Mais je n'ai fait que commencer et je pensais le continuer ce soir. Mais c'était trop prodigieux. Je ne sais pas si les gens l'ont saisi ou non. J'espère que oui, partout. Et j'espère que de bons enregistrements ont été faits de cela, que cela puisse être répandu pour être connu, car je crois que de tous les messages que j'ai apportés, cet absolu était ordonné de Dieu, à part, bien sûr, la commission actuelle, comme les 7 sceaux et ces choses, c'était directement la parole de Dieu. Je parle de messages à prêcher. Je crois que celui-là était celui-là, voyez, celui qui devait absolument suivre ces 7 sceaux. Maintenant, regardez ce qui vient après les 7 sceaux. L'union des gens, le signe de l'union. La lumière rouge clignotant dans les derniers jours, le signe des femmes qui deviennent plus jolies et les hommes ce qu'ils feraient, tous ces signes du Saint-Esprit qui nous conduisent, puis il revient ici pour le couronnement de tous ces messages depuis les 7 sceaux, c'est couronné dans cette seule chose, le signe, que nous sommes sur la bonne voie, voyez, nous devons nous examiner et voir si nous sommes dans la foi. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse, et maintenant, avant que nous allions dans la Bible pour prier pour les malades. Nous avons demandé ce matin combien on fait prier pour eux dimanche soir qui ont été guéris, qui ont déjà été guéris cette semaine. Et pratiquement tout le monde ici a levé la main. C'était lors de la réunion dimanche soir. Maintenant, c'est quelque chose, vous comprenez? C'est quelque chose qui est... je saisis ceci pour moi-même. Il y avait un petit garçon à qui l'on avait dit, il venait de Chicago, un petit... Est-ce que cette femme, Madame Peckinpah, c'est une très brave sœur chrétienne. Et elle a amené quelqu'un, un enfant, comme je le comprends, un petit garçon ou quelque chose que les médecins même ne savaient pas ce qui n'allait pas avec lui. Ses poumons étaient en si mauvais état ou quelque chose comme ça qu'il ne pouvait pas faire, ne pouvait pas l'envoyer à l'école ou quelque chose comme ça. Il était très, très mal en point. Et il a dit, le Saint-Esprit, juste après le message, a parlé à ce petit garçon et l'a appelé. Il lui a dit ses conditions et ainsi de suite et a annoncé sa guérison. Et cette semaine, il est allé, la mère ou ses parents, ou peu importe qui c'était, l'ont ramené chez le médecin, et le médecin a dit qu'il avait de nouveaux poumons. Vous voyez, de nouveaux poumons. Et si je comprends bien que les parents ou quelqu'un ont fait appel de longue distance ou d'une certaine façon pour le faire savoir à l'Assemblée, vous voyez, maintenant, Dieu, le Créateur, peut créer des poumons. Je crois vraiment que nous sommes tout près de l'une des choses les plus puissantes qui a jamais frappé la terre depuis les jours du Seigneur Jésus. Vous voyez? Mais maintenant, nous ne pouvons être connus que comme si ce sera si humble. Vous voyez ce que l'homme appelle puissant, Dieu appelle cela abomination. Mais ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle puissant. Voyez? Maintenant, surveillez ça. Vous voyez, ce sera si humble que vous ne manquerez jamais, que vous ne le manquerez si vous n'avez pas le signe là pour l'examiner. Vous voyez, qui aurait pu penser que les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux, quand un prophète est sorti du désert? Isaïe l'avait prononcé 1200 ou 712 ans avant, auparavant, avec la barbe couvrant son visage et un morceau de peau de mouton, pas même une chair pour y prêcher, excommunié de toutes les églises et debout sur la rive du Jourdain, criant « Repentez-vous » et traitant les gens d'un tas de vipères et de serpents. Mais c'est ce que Dieu a dit, que lorsqu'il viendra, les montagnes sauteront comme des béliers, vous voyez. Les gens humbles l'ont vu et se sont réjouis. Comment pouvait-il comprendre que ce grand Messie, qui était prophétisé depuis le tout début du livre dans la Genèse, qu'il viendrait un sauveur. Tous les sacrifices et tous les prophètes et tout avaient pointé vers lui. Et puis quand il est venu, supposément d'une naissance illégitime, un père qui n'était même pas marié à sa mère, supposément, voyez, et la femme avait été trouvée enceinte du bébé avant même d'être mariée, et il est venu d'un tel et né dans une petite, eh bien, on dit une étable dans la Bible. Mais une étable, en ces jours-là, était une caverne dans le bas, dans le mur. J'ai vu un endroit semblable en Arizona une fois à la chasse. Il y avait une étable sous une falaise de roche. Et c'est ainsi que Jésus est né dans cette petite étable, dans un creux de falaise, dans une mangeoire de foin et de paille, dans une grange de vaches, voyez, où se trouvait la provision, et a été élevé comme aide-charpentier. Et comment cela pouvait-il être le puissant Jéhovah? Mais il l'était, voyez, il l'était. Voyez, une sorte de personne très étrange, mais oh, quand il n'était qu'un garçon, il a stupéfait les prêtres par sa connaissance de cette parole. Parce que quoi? Il était la parole, voyez, il était la parole. Il n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais écrit un mot. Le seul mot qu'il n'a jamais écrit, je suppose, il l'a effacé dans le sable, alors qu'une femme avait été surprise en état d'adultère. Il n'a jamais écrit un mot. Pourquoi? Il était la parole, voyez? Il était la parole. Il n'avait pas besoin de l'écrire. Sa vie la manifestait. Il était la parole. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas, voyez? Si je ne fais pas exactement ce que la parole dit que je ferai, alors je ne suis pas la parole. Mais si, c'est ce qu'il voulait dire. Il est la parole. Donc, préparez-vous maintenant pour le service de guérison et la communion. Nous serions heureux que vous restiez avec nous si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, alors nous allons terminer sans tarder. Et n'oubliez pas, priez pour moi et priez pour ma femme la plus gentille du monde entier, et pour mes enfants. Et maintenant, je les ai réclamés, chacun d'eux, pour le Seigneur Jésus. Maintenant, Becky est juste à l'âge de la petite Riquetta, vous savez, est juste un peu adulte, Annie, comme nous disons. Et donc, elle est juste à cet âge, mais bon, c'est une fille très gentille. Et je remercie le Seigneur pour cela. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, ne court pas, ni rien, mais elle a simplement cet âge. Elle est insouciante. Elle ne veut pas aller de l'église. Et si elle y va, elle s'assoit en arrière et mange du chewing-gum, se lève et sort. Cela, vous voyez, je veux la voir remplie du Saint-Esprit. Je veux voir Joseph. Je veux que ce garçon, je crois qu'un jour, quand je ne pourrai plus venir à la chaire, je veux prendre cette vieille Bible usée et la lui remettre en disant, « Joseph, reste avec elle, mon fils. » Ensuite, je serai prêt à monter. Je vais entendre un vent souffler quelque part, lever les yeux, faire signe de la main et partir. Prions. Dieu notre Père, toute notre vie est enveloppée dans cela, car c'est toi et tu es notre vie. Maintenant, il y en a ici, Seigneur, qui détiennent même ce signe dont j'ai parlé. Ils ont pris possession de ce signe et pourtant ils sont malades. Et je veux parler ce soir pour leur donner du courage, pour les encourager à prendre les droits que Dieu leur a donnés. Ils ont le droit de vaincre ce démon. Il est déjà vaincu et il ne fait que les tromper. Je les réclame, Père. Maintenant, aide-moi à parler de la parole. Parle à travers moi, Seigneur, avec ces quelques notes que j'ai inscrites ici et ces petites écritures. Je prie pour que tu m'aides, Seigneur, à entrer dans la parole et à leur donner la foi pour la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bon, rapidement, je veux que vous alliez dans la Bible au livre de Jérémie, le chapitre 29, si vous voulez lire, ou sinon juste le noter, Jérémie. Chapitre 29, nous allons commencer par le 10e verset de Jérémie, le 10e verset du chapitre 29. De plus, nous allons lire dans Luc, le 16e chapitre, à partir du verset 24. Maintenant, je vais vous donner mon texte, alors que vous êtes en train de chercher. Mon texte ce soir est poussé à bout. Et maintenant, vous savez ce que « pousser à bout » veut dire. Et maintenant, nous allons lire dans Jérémie, au chapitre 29, le 10e verset. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » N'est-ce pas affectueux, dit l'Éternel? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. De retour à la Pentecôte. J'ai rajouté cela moi-même. Ça ne dit pas cela. C'est ce que je voulais dire à l'Église. Luc 16, en commençant au 15e verset ou au 16e verset. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Chacun use de violence pour y entrer. Non pas simplement y entrer facilement, mais use de violence pour y entrer, voyez. Maintenant, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il a promis qu'il reviendrait et ramènerait le peuple dispersé sur toute la terre après ses 70 années à Jérusalem, d'où il était parti, et il l'a fait exactement de cette façon. C'est vrai. Maintenant, nous allons parler sur pousser à bout pendant quelques minutes, là. Habituellement, il faut un état d'urgence pour nous pousser à bout. Vous voyez? C'est dommage qu'ils doivent en être ainsi. Mais les êtres humains sont tellement relâchés dans leur esprit qu'il leur faut une urgence. Quelque chose qui arrive, et quand ça arrive, alors cela les pousse à bout. Et en réalité, en faisant cela, en agissant, en étant poussé à bout, cela fait ressortir ce que vous êtes vraiment. Cela montre de quoi vous êtes fait lorsque poussé à bout. Cela fait habituellement ressortir toutes les bonnes choses qui sont en vous. Au moment de la mort, j'ai entendu des gens alors qu'ils savaient qu'ils se mouraient. Des choses qu'ils ont gardées secrètes toute leur vie. Et ils poussaient à bout, ils essayaient de les confesser, vous voyez. Et ils essayaient, prenez ceci et rendez-le, allez, s'il vous plaît, allez, faites-le, vous voyez, poussez à bout. Ils auraient dû faire cela avant, vous voyez. Ne pas attendre le temps d'une urgence. Voulez-vous le faire pour moi? L'urgence provoque d'être poussé à bout quand nous devrions le faire sans état d'urgence, oui. Maintenant, nous constatons ce soir que nous prenons les symboles de la Pâque. Et la Pâque a été prise en état d'urgence, lorsqu'ils étaient poussés à bout. Vous remarquez dans Exode au chapitre 12 et le verset 11 du chapitre 12, je crois que c'est ça, il est dit, « Mangez cette Pâque avec vos chaussures aux pieds, avec vos reins saints et avec le bâton à votre main. » Vous voyez? Vous la mangez en étant poussé à bout. Ils avaient vu la grande main de Dieu. Ils avaient vu tous ses miracles. Puis ils s'étaient mis sous la marque du signe. Et pendant qu'ils étaient sous la marque du signe, ils ont pris la communion en étant poussé à bout. Car il savait à ce moment-là que Dieu allait frapper avec le jugement. Et c'était un moment troublant. C'était un moment où chacun s'examinait. Car la parole du prophète n'avait jamais failli une seule fois. Elle avait été prouvée comme véritable. Peu importe ce qu'il disait, cela arrivait exactement comme il l'avait dit. La colonne de feu était toujours là. Et là, le prophète avait annoncé que Dieu ne passerait pas par-dessus que lorsqu'il verrait le signe sur la porte. Et les gens étaient poussés à bout. J'imagine que les enfants étaient, quand ils ont vu ces grandes ailes noires descendre du ciel comme une fumée qui s'installe sur la ville, les cris venant de chaque maison, les enfants ont dû aller voir leur papa pour lui demander, « Papa, es-tu sûr que nous sommes sous ce signe? » Et il pouvait aller à la porte, regarder le poteau, le linteau et dire, « Mon fils, c'est selon la parole. Rappelle-toi, je suis ton aîné, papa. Es-tu certain? Je suis certain. C'est selon ce que le prophète nous a dit. Il a la parole du Seigneur. Il a dit, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Prenez un agneau pour la maison. Je vous ai fait tous rentrer, mes enfants. Tu es mon aîné, moi, mon premier-né. Ce sont tous ceux qui meurent là dehors. Mais voici le sang. » C'est ce qu'était l'ainsi dit le Seigneur. Alors calme-toi, mon fils. Repose-toi tranquillement, parce que Dieu a fait la promesse, tu vois. Eh bien, papa, pourquoi tu as mis tes chaussures? Pourquoi tu as mis le bâton à la main? Pourquoi as-tu un morceau de pain dans une main et un agneau dans l'autre? Pourquoi ces herbes amères et ces choses? Pourquoi les manges-tu? Pourquoi la sueur coule-t-elle sur ton visage? Mon fils, la mort est sur le point de frapper. Vous voyez, c'était dans un temps où les gens étaient poussés à bout. Maintenant, je crois que nous vivons dans les jours où nous sommes. Ou autrement dit, les jours où nous vivons devraient faire en sorte que l'Église soit complètement poussée à bout. Je crois, vu le message de Dieu ce matin, pas de moi, je crois que ça devrait amener cette assemblée entière à être poussée à bout et à réaliser que nous avons joué assez longtemps. Nous sommes à l'Église assez longtemps. Nous devons faire quelque chose. Comment se fait-il que nous pouvons voir d'autres grands signes et miracles accomplis sur d'autres? Qu'en est-il de nous? Cela devrait nous pousser à bout où nous serions déterminés devant Dieu. Les signes de sa venue devraient amener cette assemblée entière quand nous l'avons vue, lue dans la parole. Et le Saint-Esprit qui nous a dit, « Va à tel endroit, telle chose se passera. » Non pas nous dire que ce que c'était, mais que cela allait se produire. Nous y allons, cela arrive de cette façon. Les journaux en parlent, les magazines en parlent, en montrent les photos. Revenez ici et voir ces grands mystères cachés dans la Bible, ouverts pour nous, dans un nouveau domaine que nous n'avions jamais connu avant et qui s'intègre parfaitement dans la venue du Seigneur Jésus. Puis à la fin des messages, de voir l'agissement du grand Saint-Esprit, le voir descendre visiblement devant les gens, même d'en prendre des photos. Vous voyez, le fonctionner, le montrer que ce n'est pas un homme, ce n'est pas seulement un prédicateur, ce n'est pas une certaine assemblée, c'est le Saint-Esprit qui montre la même chose qu'il a faite quand il était incarné dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, il est incarné dans le corps de son épouse. Cela devrait nous pousser à bout. Ces gens avaient vu la main de Dieu. Et ce soir de communion-là, ils l'ont pris en étant poussés à bout, parce qu'ils savaient que quelque chose était sur le point d'arriver. Et nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Et rappelez-vous, la venue du Seigneur sera un enlèvement soudain et secret. Il viendra la prendre comme un voleur dans la nuit. Et de penser que si quelqu'un, tout à coup, des membres de notre famille sont partis et vous êtes laissés derrière, cela devrait nous pousser à bout, afin que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas laissés derrière. S'il y a quoi que ce soit, je ne veux pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Il y a quelques jours, j'écoutais Mel Johnson chanter ce chant. « Souviens-toi de moi quand mes larmes coulent. » Oui. « Souviens-toi de moi quand je suis solitaire et quand je franchirai cette rivière du Jourdain, quand tu appelleras les tiens. Souviens-toi de moi. » Et sur le livre de vie de l'agneau, je veux que mon nom soit écrit. Je veux qu'ils se souviennent de moi à l'heure de l'appel. Et cela me pousse à bout, c'est-à-dire, comme Paul a dit, après avoir prêché l'Évangile, serais-je un passager clandestin? Serais-je un rejeté? Ça pourrait arriver. Or, cela me pousse à bout. Pousser à bout de penser que, après toutes ces années de prédication, est-ce que je pourrais, un endroit où je pourrais lui faillir? Quel est le prochain pas? Que dois-je faire ensuite? Et cela me rend dans un état nerveux. Que puis-je faire? Cela me propulse des montagnes aux vallées. Et c'est difficile parce que quand je suis avec les gens, je dois être toute chose pour tous les hommes, afin que je puisse en gagner quelques-uns à Christ, mais toujours avec ce signe devant moi. Et je vois les choses qui s'en viennent, et vous ne pouvez pas le dire aux gens. Vous voyez différentes choses et il vous est interdit. Ces visions qui provoquent et parfois ils seraient désolés si vous leur disiez et vous connaissiez mieux que de faire cela. Et puis vous allez si loin dans les visions que tout devient une vision. Et cela vous amène dans un état nerveux. Vous regardez et dites, maintenant, suis-je dans une vision comme ici maintenant? Est-ce une vision ou y suis-je vraiment? Voyez, vous dépassez, vous dépensez trop et vous découvrez des choses sur les gens que vous souhaiteriez ne pas le connaître. Les gens qui désirent ces choses, de connaître ces choses, ils ne réalisent pas ce que coûte ce genre de ministère. Vous ne savez pas ce qui s'y rattache. Ensuite, cela vous pousse à bout. « Seigneur Dieu, je sais que je devrais en répondre. » Jacques Moore m'a dit une fois, « Je n'aimerais pas devoir répondre comme vous au jour du jugement. » Il a dit, « Dieu a placé ces personnes entre vos mains et vous devrez rendre compte pour chacun d'eux. Vous devrez répondre de votre ministère. » Il y a de cela environ 15 ans, ou peut-être 18, et depuis lors, j'ai été poussé à bout. Que vais-je faire? Permets que je ne dise pas ce que tu dis, Seigneur, que je leur dise ce qu'est la vérité, ou bien que je ne dise rien. Cela m'a poussé à bout. Puis, voyons ces signes venir, voyant le Saint-Esprit nous amener là-bas et apporter ces sceaux et les révéler comme ça, apporter les anges de l'Église et les révéler, puis descendre dans une grande colonne de feu là-bas et se révéler. Ensuite, descendre pour la chose suivante, pour les 7 sceaux et les révéler, même jusque dans les journaux et les magazines. Ensuite, entrer et prendre les anges de Dieu, ces 7 anges avec ces 7 messages et les confirmer exactement comme la Bible disait. Alors, pendant ce temps-là, venir et apporter ces sceaux. Ces signes des clignotements du temps de la fin, les amener aux gens et leur dire que c'est et ce que c'est et tout ce qu'il en est. Et le Seigneur œuvrant jusque-là, se montrant présent, et puis tout comme ce matin, montrer et exiger ce signe pour chaque personne. Alors, vous êtes mon peuple. Vous êtes ceux que j'aime, ceux-ci et ceux qui écoutent les bandes, et ainsi de suite. Ensuite, vous voyez la tension dans laquelle cela me met. Poussé à bout. Les signes de sa venue devraient pousser à bout tous les membres de Christ maintenant pour ce qui est de nos âmes, de notre bien-être pour l'avenir. Eh bien, à quoi arriverons-nous si nous gagnons le monde entier? Que sommes-nous? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi mangez-vous? Pourquoi luttez-vous? Pourquoi vivre? Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Et vous n'êtes pas apte à vivre avant que vous soyez prêt à mourir, c'est vrai. Et nous voyons tant de miracles, de guérisons, cela devrait nous pousser à bout. Si ce petit garçon, est-ce que je regarde Mme Peckinpah là? Est-ce que Mme Peckinpah, êtes-vous celle qui avait le petit garçon ici, quelque chose? Eh bien, voici la femme dont je parlais, assise juste ici. Je me suis adonné à regarder par là et je l'ai vue. Or, si Dieu peut faire cela pour ce petit garçon, cela devrait vous pousser à bout. Un homme de New Albany, il peut être ici ce soir, c'est un ami de mon frère Robertson. Il avait un petit garçon ici. Je pense que sa femme a déjà eu un cancer et elle a été guérie. Et maintenant, le petit garçon faisait de l'asthme si pitoyablement qu'il était en mauvais état. Le petit garçon et lui, la gorge presque remplie de cancer lui-même, voyez. Et puis, il a amené le petit garçon. Oui, je vois sa main levée là au fond. J'ai prié pour lui ce matin, voyez. Poussé à bout. Quand la femme allait mourir d'un cancer, il savait que Dieu pouvait la guérir. Et si Dieu pouvait guérir la femme, Dieu pouvait guérir le garçon. Et cela l'a poussé à bout. Voyez, vous devez venir. Quand vous êtes poussé à bout, alors Dieu va vous écouter. Mais si vous êtes juste relâché, sans vous soucier s'il le fait ou non, eh bien, alors c'est indifférent. Vous dites que vous le faites, mais il faut être poussé à bout pour le faire. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas poussés à bout, c'est par manque d'amour. Dieu, l'amour de Dieu. Je pense que l'amour de Dieu est ce qui vous pousse à bout. Si Dieu est en vous, le signe à l'intérieur de vous, et que vous voyez les conditions du temps, les gens pataugeant dans le péché comme ils le font, cela vous poussera à bout. Je le crois. Maintenant, la parole déclare clairement, si vous voulez le noter dans Galates 5, 6, que la foi est agissante par l'amour. Voyez? La foi est agissante par l'amour. Et la seule façon que vous pouvez avoir la foi, c'est d'avoir l'amour premièrement. Parce qu'après tout, la foi est l'incitation à l'amour. le stimulant, c'est exactement ce que fait la foi. C'est une incitation à l'amour. Maintenant, si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas avoir de foi, voyez? Comment pouvez-vous avoir confiance en votre femme si vous ne l'aimez pas? C'est dans le domaine filéo. Maintenant, qu'en est-il dans le domaine agapao de Dieu? Comment cela peut-il être si vous n'aimez pas Dieu? Si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, que vous ne vous asseyez jamais pour la chérir et lui exprimer, l'embrasser, la prendre dans vos bras et lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays, toutes les choses que vous savez et combien elle est jolie et combien vous l'aimez, si vous ne faites pas cela, elle ne le saura jamais. C'est la façon. Si vous l'aimez, vous lui exprimez cela. C'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Quand nous l'aimons, nous lui en parlons, nous nous arrêtons et nous l'adorons et nous le louons. Et vous voyez, l'amour nous conduit à cela. Et maintenant, si quelque chose devait être fait pour votre femme, eh bien, cela vous pousserait à bout afin que cela soit fait. Qu'en serait-il si quelqu'un disait « Votre femme a un cancer? » Que se passera-t-il si quelqu'un disait que votre femme a la tuberculose et qu'elle est sur le point de mourir? Là, vous feriez n'importe quoi. Vous voyez, cela vous pousserait à bout. Et c'est la même chose pour cela. Nous devons avoir l'amour avant que nous puissions avoir la foi. Et la foi, quand nous avons un véritable amour, qu'est-ce que ça fait? Cela pousse notre foi sur le front de bataille pour Dieu. Vous voyez? L'amour divin authentique pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple déploiera la foi. L'amour s'empare simplement de la foi et c'est comme, voyons, allons-y. Et alors, elle agit. Ça, c'est ce que fait l'amour. Jean 14, 23, Jésus a dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Maintenant, vous ne pouvez pas garder ses paroles sans avoir foi en ce qu'il a dit. Donc, vous voyez, s'il aime Dieu, il garde la parole de Dieu. S'il a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit », il le croit. L'amour fait en sorte qu'il y croit, car l'amour domine tout. Bien que je parle avec la langue de l'homme et les anges, et si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien, voyez. Bien que j'ai la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Voyez, l'amour domine tout, parce que Dieu est amour, un Dieu d'amour. Maintenant, oui, monsieur, si Jésus a dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles », nous savons, et c'est vrai, que Dieu se penchera sur l'âme poussée à bout. Maintenant, nous savons tous, mais il faut généralement quelque chose pour nous conduire à cela, à être poussé à bout, pour être poussé à bout. Il faut quelque chose pour le faire. Nous trouvons dans Jacques 5, 15, que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace, c'est à être poussé à bout. La prière efficace et fervente du juste a une grande efficace. Quand un homme juste, un homme bon, entre en combat, ou que l'âme voyage ou lutte, ou l'un ou l'autre, je pense que voyage est un meilleur mot, lutte ou voyage, celui que vous voulez employer, mais quand une âme est poussée à bout, en lutte, la prière fervente et efficace d'un homme qui peut montrer le signe, cela produit quelque chose. Notez ce que la Bible a dit ici aussi dans Jacques 16, 5, 16. Il est dit, « Confessant nos péchés, nous redressant, nous préparant pour cela. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. N'ayant pas de péché, demandez aux gens de prier pour vous en confessant nos fautes les uns aux autres et en priant l'un pour l'autre. » Voilà, c'est ça, avec l'amour. L'amour, j'ai confiance que je peux vous avouer mes torts et que vous pouvez m'avouer vos torts et que je vous aime assez pour prier pour vous et vous priez pour moi. Et nous nous tenons avec cela, avec la prière fervente et efficace jusqu'à ce qu'elle soit répondue. C'est être poussé à bout. C'est ce que nous devrions avoir tout le temps. Prenons quelques exemples scripturaires de cela, ce qui s'est passé. Maintenant, pour encore environ une quinzaine de minutes, le Seigneur voulant, Jacob, c'était un homme qui était d'abord un peu le genre de garçon insouciant. Il pensait dans son esprit qu'il savait que le droit d'aînesse signifiait tout pour lui. Et il lui importait peu de savoir comment il allait l'obtenir en autant qu'il l'avait. Et après l'avoir eu, il pensait que tout allait bien parce qu'il avait le droit d'aînesse. Il pensait que la chose était réglée. Il est venu vers son frère quand il avait faim, en revenant du champ, après avoir pris son soin du bétail et chassé le cerf. Et son frère, il avait préparé un gros pot de potage avec des pois sauvages et des choses mélangées. Ça pouvait être très tentant pour un homme qui a faim après avoir marché toute la journée. Et son frère a dit, « Je suis sur le point de m'évanouir. Donne-moi un peu de ceci. » Il a dit, « Bien, si me jure que j'aurai le droit d'aînesse, voyez, peu lui importait comment cela se ferait, en autant qu'il l'avait. » Et il a pensé, quand il a eu le droit d'aînesse, que cela était réglé. La Pentecôte, c'est là que vous avez échoué. Vous avez pensé que parce que vous étiez né de l'Esprit de Dieu, le droit d'aînesse, que c'était réglé. Mais ça ne faisait que démarrer. Vous vous souvenez dans le message de « Écoutez-le ». Comment l'enfant, après qu'il fut né dans la famille, il devenait un fils. Il avait droit au droit d'aînesse, mais il lui fallait prouver qu'il était un enfant formé. Hélas, il ne s'avérait pas être un enfant obéissant à la volonté du Père. Alors il devait être, eh bien, il n'obtenait pas le, ne pouvait pas le devenir héritier. Il n'héritait de rien. Quand même, c'était un fils, mais il n'héritait de rien s'il n'était pas intéressé par le travail du Père. Et aussi, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur le peuple pentecôtiste et qu'ils ont commencé à rétablir les dons et les choses qui appartenaient à l'Église, ils ont pensé, parce qu'ils étaient nés de l'Esprit, que c'était réglé. Mais vous voyez, il y a le placement d'un fils. Et après que ce fils s'est avéré être un vrai fils, il était amené dans un lieu public, puis placé là, dans des vêtements différents, et placé là, et puis il y avait le placement du fils qui devenait héritier de tout ce que le Père possédait. Dieu a fait la même chose avec son fils sur la montagne de la Transfiguration. Il a été recouvert par d'une nuée, il a été transfiguré, et son vêtement brillait comme le soleil. Et une voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Moïse et la loi avaient échoué, et c'est lui, écoutez-le. Il a été placé, voyez. Maintenant, Jacob pensait, parce qu'il avait le droit d'aînesse, que tout était accompli. De même, les gens pentecôtistes, quand ils ont commencé à s'organiser, les unitaires, les trinitaires et les trinitariens et toutes sortes d'organisations se disputant et se tiraillant l'un l'autre, cela prouvait que le signe ne s'y trouvait pas. La malice, l'envie, les conflits, vous voyez, mais c'est là que cela a abouti. Maintenant, vous voyez, Jacob a pensé la même chose, mais dans la crainte, une nuit pour sa propre vie, il a été poussé à bout quand il a pensé que juste de l'autre côté de cette rivière là-bas, mon frère attend pour me tuer. Il va le faire, vous voyez, le droit d'aînesse qu'il avait obtenu, c'était ce qu'il allait causer sa mort. Et parfois, la chose même que vous recevez comme le Saint-Esprit, c'est être né de nouveau de l'Esprit. Si vous ne faites pas attention, cette même chose vous condamnera à la fin. C'est vrai, les mêmes eaux qui ont sauvé Noé ont condamné le monde. La chose que vous appelleriez fanatisme pourrait être la même chose qui vous condamnera au bout du chemin. Maintenant, Jacob savait que sa vie tirait à sa fin. Il avait un messager qui était venu lui dire que son frère avec 400 hommes armés venait à sa rencontre. Il savait qu'il était sur son chemin. La peur s'est emparée de lui. Il a envoyé un homme au-devant avec des bœufs, du bétail et des brebis pour faire une offrande de paix avec Ésaü. Puis après cela, il a envoyé un autre groupe avec un autre chargement de choses. Ensuite, il a envoyé un autre groupe avec un autre chargement de choses qui allait le rencontrer d'abord pour essayer d'apaiser sa colère. Puis il s'est mis à penser, cela ne l'arrêtera pas car il est probablement plus riche que moi. Il n'en a pas besoin. Puis il a pris ses femmes et ses petits-enfants et les a envoyés en traversant pour qu'Ésaü voie ses petits-enfants et ses femmes. Et sûrement que ses propres petites-nièces et ses neveux, il ne les tuerait pas. Alors, il ne pouvait pas le faire. Dieu sait comment conquérir un homme. Jacob a traversé le ruisseau, là, il s'est mis à genoux. Vous savez, il avait été en quelque sorte un peu méchant avant ça. Excusez l'expression, mais un peu, il était un Jacob. Jacob signifie un trompeur, et c'est ce qu'il était. Mais il lui est arrivé quelque chose, là, poussé à bout, alors que la mort rôdait. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui se trouvent ici ce soir, dont la mort est juste devant vous, et la seule façon que vous pourrez réaliser ce que vous voulez, c'est d'être poussé à bout. Je dois l'avoir ce soir. Je dois l'avoir maintenant où je suis fini. Demain sera trop tard. Je dois l'avoir maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe, ne dites pas, « Eh bien, maintenant, je vais y aller et essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Oh, miséricorde, restez dans votre siège. Ne faites même pas une tentative. Si vous venez, dites, « Je vais passer dans la ligne de prière. On va mettre de l'huile sur ma tête. Je verrai si cela me fait du bien. » Vous faites aussi bien de rester où vous êtes jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit, jusqu'à ce que toutes les livres arrivent à un endroit où c'est entre la mort et la vie. Vous devez l'avoir maintenant ou périr. Alors Dieu agira sur la scène. Il faut être poussé à bout pour amener Dieu sur la scène. Jacob a pleuré comme jamais auparavant. Poussé à bout, il a appelé jusqu'à ce qu'il contacte Dieu. Et quand il l'a fait, il a lutté pendant 15 minutes. Il a lutté pour le garder dans son âme toute la nuit. Et encore là, il savait qu'il n'avait toujours pas la bénédiction. Et il a été capable de tenir jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Il a lutté désespérément jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Ensuite, quand il a vu jusqu'à ce que Dieu vienne sur la scène, et puis poussé à bout, « Je ne le laisserai pas aller. » Quand il a commencé à ressentir la bénédiction venir sur lui, beaucoup de gens disent, « Gloire à Dieu, je l'ai maintenant. » Là, vous êtes séduit, oui. Quelqu'un dit, « Oh, je me sens si bien, frère Branham, je suis allé là-bas et j'ai prié. Oh, des frissons m'ont pris et cela a pu être dû. J'ai vu une grande lumière devant moi. Cela a encore pu être dû, mais ce n'est pas ce dont je parle. » La Bible dit dans Hébreux au chapitre 6, « La pluie tombe sur les justes et les injustes, pareillement. » Maintenant, vous prenez du blé et prenez des mauvaises herbes et les mettez dans le champ. Et la pluie qui est actuellement envoyée pour le blé, cette pluie tombe en même temps sur les mauvaises herbes comme sur le blé. Et la pluie, les mauvaises herbes sont tout aussi heureuses de la pluie que le blé l'est. Et c'est la même pluie. Le Saint-Esprit même peut tomber sur un incroyant et le faire agir exactement de la même manière qu'un croyant agit. Mais à leurs fruits, on les reconnaît. C'est ce dont je parle. C'est le signe. Et Jacob, plutôt, poussé à bout, il a dit, « Je sais que je t'ai senti. Tu es ici avec moi, mais je ne vais pas te laisser partir. » Quelqu'un le voit bien, à la première petite sensation, il se lève et saute de haut en bas, court dans l'allée et dit, « Je l'ai. » Oh non, non. Jacob est resté là jusqu'à ce que quelque chose arrive, qui l'a fait marcher différemment, qui a fait de lui une personne différente, parce qu'il est resté jusqu'à ce que cela arrive. Il a pu, la Bible a dit, il a tenu jusqu'à ce qu'il ait prévalu. Comment un homme peut-il prévaloir sur Dieu? Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Un homme peut prévaloir sur Dieu. Une fois, il y avait un homme nommé Ézéchias, à qui le prophète avait dit, « Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et poussé à bout, il s'écria en pleurant, « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et j'ai besoin de 15 ans de plus auprès que Dieu lui ait dû, que quelque chose allait se produire, qu'il allait mourir. » Et poussé à bout, il a changé le programme de Dieu. Poussé à bout, cependant, il a pleuré amèrement en étant poussé à bout. Jacob est resté là jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Et il a changé son nom de trompeur en un prince avec Dieu. Même la nation portait son nom. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'était? Les résultats sont venus parce qu'il était poussé à bout par la situation. Et le lendemain, lorsqu'il a rencontré Ésaü, il n'avait pas besoin de garde. Il est allé directement vers lui pour le rencontrer, voyez? Pourquoi? Il avait été poussé à bout jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance. Et vous, soyez poussés à bout jusqu'à ce que vous receviez l'assurance. Si vous ne le faites pas, ne venez même pas pour que l'on prie pour vous. Vous ne venez pas, même pas à l'autel. Attendez que ce soit entre la vie et la mort pour vous. Alors quelque chose se produira, certainement, poussé à bout. Ruth fut poussée à bout une fois quand elle se tenait près de Naomi. Devrait-elle retourner vers son peuple, vers tout ce qu'elle aimait et tout ce qu'elle adorait, c'est Dieu et son peuple, ou elle allait-elle s'attacher à Naomi? Que devait-elle faire? Elle fut poussée à bout et elle s'est écriée. Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, j'enterrerai et je serai enterré. Et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà ce qu'il faut. Poussée à bout. Dieu l'a béni. Il lui a donné un fils, Obed. Obed a engendré Isaïe. Isaïe a engendré par Isaïe vint Jésus. Parce que, poussée à bout, comme la petite prostituée Rahab, elle était poussée à bout. Elle savait que la mort l'attendait. Elle était sous le jugement. Et elle fut poussée à bout. Elle a dit, « Je vous cacherai, espion. Je ferai tout. Seulement jurez à votre Dieu que ma maison va subsister. » Et voilà, il a dit, « Si tu acceptes ce signe, elle subsistera. » Éliezer fut poussé à bout lorsque la responsabilité lui fut imposée de trouver une épouse pour Isaac. Éliezer de Damas était un grand homme. Il était favorisé par Abraham. Il lui a été confié par Abraham d'aller trouver une épouse, le bon type d'épouse pour son fils Isaac. Par cette lignée viendrait le Christ. Maintenant, Éliezer est un homme spirituel. Savait ce que cela signifiait. La bonne sorte de femme devait être là, la femme de cet homme. Et comment allait-il la choisir? Alors qu'il était poussé à bout, lorsqu'il est arrivé à la ville, il a prié, il a dit, « Seigneur Dieu, c'est la seule chose. Lorsque vous êtes poussé à bout, allez prier. Seigneur Dieu, que la jeune fille qui viendra et qui donnera à boire au chameau et me donnera aussi à boire soit celle-là. » Il pria alors de son découragement. Rebecca, la jolie servante, est venue à abreuver les chameaux. Alors il a dit, « Ne me retardez pas dans mon voyage. » Elle devait prendre sa décision si elle y allait. C'était un type de l'épouse. Allait-elle, partirait-elle pour se marier avec un homme qu'elle n'avait jamais vu? Maintenant, c'est une grande chose. Sans l'avoir jamais vu. Mais elle n'avait entendu que son serviteur, c'était un type de l'épouse. Vous n'avez jamais vu Christ, mais vous entendez ses serviteurs parler de ce qu'il est. Vous vendez tout, vous laissez vos maisons, tout ce qu'il faut. Laissez, vous pourrez aller le trouver. Maintenant, remarquez, elle a pris la décision, un type de l'épouse. Elle a quitté sa maison dénominationnelle, voyez, pour y aller. Jonas, jeté par-dessus bord, dans la mer, durant une tempête, au fond de la mer, dans le ventre de la baleine. Tout espoir de survie avait disparu. Mais il lui est venu à l'esprit que Salomon, en consacrant le temple, avait dit, « Seigneur, si les gens sont en difficulté n'importe où et qu'ils se tournent vers ce temple et prient, alors exauce-les. » Et se retournant dans le ventre de la baleine, il a réussi à s'agenouiller, j'imagine, avec le vomi de la baleine partout sur lui. Là, poussé à bout, il a prié. Et là-dedans, poussé à bout, seulement un peu d'oxygène pour respirer, c'est tout ce qu'il avait dans le ventre de la baleine. Et dans ces quelques respirations qu'il aspirait, peut-être ne savait-il pas dans quelle direction il se trouvait, il a dit, « Seigneur, je crois que je regarde tout droit vers le temple. » Et avec seulement quelques respirations possibles, poussé à bout, il a prié. Dans ces circonstances, cela n'avait jamais été fait avant, mais il était poussé à bout. Il a prié et Dieu l'a maintenu en vie pendant 3 jours et 3 nuits. Il l'a conduit à l'endroit où il devait délivrer son message. Poussé à bout. Anne, une femme stérile dans la Bible, elle voulait un fils et elle s'est mise à jeûner pour lui. Elle a jeûné et prié au point même. Le prêtre du temple pensait qu'elle était ivre. Elle était tellement poussée à bout. Avec le reste des femmes qui se souciaient du genre de bonnet que l'autre avait porté, vous savez comment c'est, et c'est l'autre se souciant du genre de vêtements qu'il portait, parlant ce qui se passait à la ferme. Mais pas Anne. Elle a traversé toutes les foules et s'est dirigée vers l'autel. Elle avait jeûné. Elle voulait que sa honte soit enlevée. Quelle différence c'est aujourd'hui. C'est presque une honte d'avoir un enfant. Mais là, c'était une honte de ne pas en avoir. Elle s'est mise à genoux. Et elle n'a jamais remarqué la dignité du temple. Elle n'a jamais remarqué la dignité du prêtre comme il sortait. Elle était dans une telle détresse que ses larmes coulaient sur ses joues et elle pleurait poussée à bout. « Oh Seigneur Dieu, donne-moi un fils! Donne-moi un fils! » Et remarquez qu'elle n'était pas égoïste. Quand Dieu lui a entendu et répondu à sa prière en lui donnant un fils, elle le rendit à Dieu. Et parce qu'elle était prête à ne pas être égoïste, après que Dieu eut répondu à sa prière, il lui a donné un prophète. Oh, c'était une bénédiction supplémentaire. Oh, il en est plein de ces petites choses supplémentaires qu'il donne. Non seulement un fils, mais un prophète. Il n'y avait pas eu de vision ouverte depuis bien, bien des années en Israël. Samuel, le premier prophète depuis bien, bien, bien des années, parce qu'une mère fut poussée à bout, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle avait passé l'âge d'être enceinte à probablement 60, 70 ans. Et elle a prié, poussée à bout, elle devait avoir cet enfant. Qu'est-ce que c'était? Dieu lui avait parlé. Sans aucun doute, vous ne pouvez pas être poussé à bout avant que Dieu vous ait parlé. Ô Église, lève-toi et secoue-toi. Pince ta conscience. Réveille-toi en cette heure. Nous devons être poussés à bout ou périr. Quelque chose s'en vient de la part du Seigneur. Je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'en vient de la part de Dieu et nous ferions mieux d'être poussés à bout. C'est entre la vie et la mort. Cela passera au travers de nous et nous ne le verrons pas parce qu'elle n'était pas égoïste. Elle a reçu un prophète. La femme Tsunamite avait un petit garçon sur lequel le prophète avait prononcé la parole du Seigneur. Bien qu'elle et son mari aient été âgés, ils n'avaient pas d'enfant, mais elle fut respectueuse envers ce prophète. Et elle savait qu'il était un homme de Dieu et elle aperçut qu'il était honorable, un homme intègre. Il est entré dans la maison, son mari n'était pas là, et quoi que ce fût d'autre, c'était un saint homme. Il pouvait voir qu'il était un homme honorable. Elle l'avait vu accomplir des signes et des prodiges. Elle avait entendu prononcer des choses, ce qui s'était accompli. Il était un homme honorable, un homme saint. Elle a dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » La dame de la maison, elle savait qu'il était un saint homme. Elle avait fait construire une petite maison là-bas pour lui, afin qu'il ne fût pas embarrassé. Il pourrait y venir quand il le voudrait, et ainsi de suite. Elle a mis un petit lit là, et une cruche d'eau, et ainsi de suite, afin qu'il puisse se laver, avoir quelque chose à boire. Et elle devait probablement envoyer la femme de ménage ou quelqu'un, le serviteur, avec de la nourriture pour qu'il mange, et venir l'inviter le jour ou quelque chose. Et ainsi, lorsque Lily vit cette bonté envers lui, il est écrit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors, elle a vu cela, la femme honorait Dieu en honorant ce prophète, alors qu'elle avait vu Dieu dans le prophète. Et donc, elle ne demandait rien en retour. Ce n'était pas dans son cœur de le faire. Elle l'a fait simplement parce qu'elle aimait Dieu. Elle ne l'a pas fait pour aucune bénédiction. Elle l'a fait, c'est tout. Bon, maintenant, Élie a dit, « Allez, dis-lui, faut-il parler pour toi au roi, si je suis un ami personnel ou le capitaine en chef, je le connais très bien. Il y a une faveur, quelque chose que je préfère pour elle. Je veux lui donner quelque chose pour le respect qu'elle m'a démontré. Elle m'a nourri, elle m'a laissé dormir dans les lits et elle a été vraiment accueillante pour nous. Que faire pour elle? Elle a dit, « Non, j'habite au milieu de mon peuple. Nous sommes bien, nous vivons bien, c'est suffisant, nous n'avons besoin de rien. » Et Géasi lui a dit, « Mais elle n'a point de fils. » Aussitôt que Géasi l'avait dit, sans aucun doute, le prophète a eu une vision, car il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, dis-lui à cette même époque ou au temps propice, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et le fils est né, quand il eut environ 12 ans, comme ce vieux couple devait aimer ce petit garçon, leur seul enfant, et un jour, il coupait du blé avec son papa, ça devait être au milieu de la journée, il attrapa une insolation, je suppose, parce qu'il commença à hurler, « Ma tête! » Elle est devenue plus malade et plus malade, son père a dû sortir du champ, et c'était d'une telle urgence là qu'il a envoyé un serviteur pour l'amener à la maison. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Remarquez, son unique enfant qui lui avait été donné par le Seigneur, par la prière et la promesse d'un prophète, avec « Ainsi dit le Seigneur », elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quelque part. Cela ne marchait pas. Comment Dieu lui aurait-il donné ce fils et aurait-il laissé son amour grandir pour ce bébé, vu qu'elle ne l'avait jamais demandé? Elle était trop vieille pour l'avoir. La main de Dieu avait dû prononcer. Un homme l'avait prononcé, le prophète, et là, ce bébé, dans cette condition, il était mort, son fils unique. Alors elle a dit au serviteur, « Selle l'ânesse, mène et pars. Ne t'arrête pas en route. Si quelqu'un essaie de t'arrêter, ne lui parle pas et conduis-moi directement au Mont Carmel. Dans une grotte, quelque part retirée, il y a un serviteur du Dieu très haut et celui qui m'a dit, « Ainsi dit le Seigneur, que j'aurai le bébé, je veux savoir pourquoi Dieu a fait ceci. » Alors il a dit, « Va tout droit et ne fais pas attention à ce mulet. Laisse-le courir de toute la force qu'il y a en lui. Laisse-le courir jusqu'à ce que tu arrives là-bas, poussé à bout. » Et Élie, le prophète, s'est levé, a regardé et a dit, « Voici cette tsunamite. » Et elle, quelque chose ne va pas avec elle. L'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Il a dit, « Cours donc à sa rencontre. J'ai dépêche-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. » Le prophète était poussé à bout. La femme était poussée à bout. Vous voyez, ils se retrouvaient dans le même canal. Une voulant savoir ce qu'était la parole du Seigneur et l'autre ne sachant pas ce qu'était la parole du Seigneur. Et voilà, une voulait la connaître et l'autre ne la connaissait pas. La femme voulait le savoir et le prophète ne le savait pas. Il a dit, « L'Éternel me l'a caché. Je ne sais pas quoi lui dire quand elle arrivera. » Elle était presque arrivée là et il a levé la main. Il a dit, « Te porteras-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Maintenant, la femme avait atteint le but de son accablement. Elle a dit, « Tout va bien. » Gloire! Tout va bien. Son accablement était terminé. Elle avait trouvé le serviteur du Seigneur. S'il n'avait pas été là, elle serait restée dans la détresse. Mais voyez-vous, il était là. Il a dit, « Tout va bien. » Élisée a pensé, « Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? » Alors, elle a couru, elle est tombée à ses pieds. Cela semblait déplacé en quelque sorte. Alors, Géasi l'a relevé. Mais il a dit, « Laisse-la tranquille, ne fais pas ça. » Élie a dit à son serviteur, « Ne fais pas cela, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, et ne me l'a point fait connaître. » Alors, elle lui a révélé que le bébé était mort. Maintenant, le prophète ne savait pas quoi faire. Il a dit, « Géasi, prends mon bâton sur lequel j'ai marché. » Il savait que tout ce qu'il touchait était béni, parce que ce n'était pas lui, c'était Dieu en lui. Il savait qui il était. Il savait qu'il était prophète. Aussi, il a ramassé son bâton et a dit, « Géasi, prends ceci et va le mettre sur l'enfant. Si quelqu'un te parle, tu es accablé, ne salue personne et ne laisse, continue tout droit, ne parle à personne, mets-le sur l'enfant. » Mais la femme, elle était toujours poussée à bout. Cela ne satisfait pas la raison pour laquelle elle était venue. Elle a dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point jusqu'à ce que tu ailles prier pour l'enfant. » Et Élie a été poussé à bout. Il est parti sur la route, lui et la femme. Et quand ils sont arrivés, là, tous les gens étaient dehors dans la cour, criant et pleurant. Et la femme avait fait la chose la plus appropriée qui pouvait être faite. Elle avait pris le bébé et déposé sur le lit où Élie s'était reposé. C'était aussi valable que son bâton. Il ne s'était pas réveillé, alors la chose ne fonctionnait pas. Elle voulait avoir quelque chose d'autre. Le prophète est entré. Maintenant, il était poussé à bout. Alors, que va-t-il faire? Nous voyons dans la Bible qu'il a marché de long en large, poussé à bout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Seigneur, je suis ici. Tu m'as dit de parler à cette femme avec un « Ainsi dit le Seigneur ». Et c'est arrivé exactement comme je l'ai dit, parce que tu me l'avais dit. Maintenant, là, elle est troublée, je ne sais pas quoi faire. Le garçon est étendu là, mort. Que puis-je faire, Seigneur? Sans doute le Saint-Esprit a dit, si le Dieu est en toi, alors allonge-toi sur le bébé. La première chose qu'on a su, il s'est arrêté, a couru et posé ses mains sur ses mains, son nez sur son nez, ses lèvres sur ses lèvres. Et quand il s'est allongé dessus, le bébé a éternué 7 fois. Il n'était plus poussé à bout. Le bébé est revenu à la vie. Parce que cet accablement avait conduit la femme vers le prophète et l'accablement a conduit le prophète vers le bébé et la détresse des deux réunis a amené Dieu sur la scène. Avec l'amour de Dieu et l'amour pour son peuple, cela a fait descendre l'amour de Dieu, a répandu la foi sur le front de bataille et le travail a été accompli. Affaire classée. Amen. C'est tout. Être poussé à bout le fait, certainement. Elle n'allait pas partir. L'aveugle Bartimée pensa que Jésus allait passer tout près, assis dehors à la porte, un mendiant aveugle pour le monde. La première chose qu'on a su, un bruit s'est fait entendre. Jésus passait par là. Il a dit, « Qui s'en vient? » Quelqu'un l'a rébuté. Il a dit, « S'il vous plaît, quelqu'un qui s'en vient. » Quelqu'un d'entre eux, eh bien, peut-être une petite femme, que ce type lui a dit, « Monsieur, ne savez-vous pas qui passe ici? » Non, j'entends certains dire, il y a tout un cimetière plein de morts ici. Et si tu ressuscites les morts, va les ressusciter. Est-ce un blasphémateur ou quoi? Non. Avez-vous déjà entendu parler de ce prophète de Galilée, ce jeune prophète appelé Jésus de Nazareth? Non? Eh bien, vous savez, dans la Bible, on dit dans nos manuscrits que le fils de David sera suscité pour s'y asseoir. C'est lui? Est-ce lui? Est-ce lui? Et il passe par ici? Poussé à bout, il a crié, « Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur, entends mon humble cri. Alors que tu en appelles d'autres, ne m'oublie pas. Ô Jésus, certains disaient, tais-toi, tu cries trop fort. Mais il était poussé à bout. S'il passait par là, il pouvait ne plus jamais avoir une autre occasion. Nous le pourrions aussi, c'est peut-être le dernier soir. Poussé à bout, il a crié, ô Jésus. Peu importe qui lui disait d'arrêter, il continuait de crier quand même, et même plus fort. Quand ils lui ont dit de se taire, cela a fait en sorte qu'il criait beaucoup plus fort. Il était poussé à bout. Personne ne pouvait l'arrêter. « Fils de David, aie pitié de moi. » Et poussé à bout, il cria. Et le Fils de Dieu, avec les péchés du monde sur ses épaules, s'en allant à Jérusalem pour être sacrifié. Dès lors, en sacrifice pour le monde, il s'est arrêté sur son chemin. Poussé à bout, un cri désespéré. Arrêtez le Fils de Dieu. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Oh, il a dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Il a dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'était suffisant. Poussé à bout. Quand vous êtes poussé à bout sur le point de recevoir quelque chose, à la moindre touche, la foi le saisit. Voyez, il n'a pas dit, « Maintenant, attends une minute, reste là, une minute, laisse-moi voir si je peux voir maintenant. Si je n'ai jamais vu mes mains depuis de nombreuses années. Voyons, si je peux les voir, je ne vois toujours pas. » Quand Jésus a dit, « Ta foi t'a sauvé », cela suffisait. C'est tout ce qu'il voulait. Être poussé à bout demande une réponse. Et quand la réponse vient, peu en importe la lueur, elle est reçue, on la croit sur le coup, parce que la foi s'accroche lorsqu'elle est poussée à bout. Voyez? L'amour se mélange à cela et il y amène. Être poussé à bout provoque cela. L'aveugle Bartimée a vite saisi la vision. Pierre, il était dans tous ses états, une nuit sur la mer, alors qu'il était poussé à bout. Il a commencé à crier. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois un esprit venir marchant vers moi. » La barque était sur le point de sombrer. Il a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il sortit de la barque et commença à marcher. Puis il eut peur quand il commençait à s'enfoncer, poussé à bout, pensant faire une erreur en essayant de suivre les commandements de Dieu. J'espère que l'Église saisit cela. L'homme faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Maintenant, vous, chrétiens, ce soir, vous êtes dans le service du devoir en essayant de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et un cancer t'a attrapé. Ou une mort te rattrape. Un cancer, la tuberculose, quoi que ce soit, en service du devoir. Tu as le même droit que Pierre avait. Seigneur, sauve-moi ou je vais périr. Poussé à bout, et il l'a appelé. Et une main s'étendit, il l'a saisi. Vous avez la même possibilité. Mais il a crié. Sauve-moi, Seigneur! Il a entendu mon cri de détresse. Il m'a sorti des eaux. Maintenant, je suis en sécurité, voyez? C'est ça. Quand vous criez, peut-être que cette femme, cette mère, quoi qu'il était pour elle, un jeune fils, un petit-fils ou un neveu, quoi qu'il fût, elle a crié, poussé à bout. Dieu a entendu. Alors, nous découvrons que dans l'enfoncement, Dieu l'a entendu. Dans le service du devoir, il a commencé à couler, il a échoué. Peu importe si vous échouez, cela n'a aucun rapport. Nous échouons tous. Nous sommes un échec pour commencer. Mais nous avons quelqu'un qui se tient maintenant avec une main forte qui peut nous atteindre et nous sortir de l'eau. Si vous avez commis une erreur, une femme a commis une erreur, un homme a commis une erreur, un garçon ou une fille a commis une erreur, ne vous enfoncez pas. Criez, poussez à bout. Seigneur, sauve-moi ou je vais périr. Soyez poussés à bout à ce sujet. Dieu vous entendra. Il entend toujours une âme poussée à bout. C'est ce que j'essaie de vous dire. Notre cher Seigneur Jésus, lui-même, dans le plus grand champ de bataille au monde, Gethsémané, il a crié, poussé à bout. Devait-il prendre sur lui les péchés du monde ou simplement demeurer sur la terre avec ses disciples bien-aimés ce qu'il voulait faire. Mais regardez son humilité, comme il s'est humilié. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il s'est soumis à la parole promise du Dieu du ciel. Remarquez, alors il est allé un peu plus loin. Il s'est allé un peu plus loin. Combien plus devrions-nous aller un peu plus loin, voyez? Et remarquez, l'Écriture dit ici dans Luc qu'il a prié sincèrement. Frères, sœurs, si Jésus a dû prier sincèrement, combien plus devons-nous prier sincèrement? Si Christ, le Dieu des cieux, fait chair, a dû prier sincèrement, alors combien devons-nous, pécheurs sauvés par la grâce, prier sincèrement? Si la décision a poussé le Fils de Dieu à bout, qu'est-ce que cela va faire pour vous et moi? Pousser à bout, nous devons crier. Dieu, dans ces derniers jours, s'est tellement manifesté à nous par ses grands signes et sa puissance, cela devrait nous pousser à bout. C'est vrai. Et sa volonté de nous guérir et de nous sauver devrait tous nous pousser à bout pour atteindre cette pierre de guérison. C'est vrai. Regardez, si Florence Nightingale, l'arrière-petite-fille de Florence Nightingale, qui a fondé la Croix-Rouge, vous avez vu sa photo dans un livre. Elle pesait environ 30 livres. Le cancer l'avait rongée à Londres, en Angleterre. Il l'avait amenée d'Afrique à Londres, en Angleterre. Et là, poussée à bout, frère Bosworth lui a écrit, il lui a dit, « Nous ne pouvons pas aller en Afrique. » Elle a réécrit, elle a fait écrire l'infirmière pour dire, « Je ne peux pas être déplacée. Je ne peux pas le faire. » Il y avait la photo. Vous avez vu la photo? Seulement, nous avons en dû couvrir une petite partie. Elle n'avait seulement qu'un petit cordon autour. Je pensais que peut-être quelqu'un, si je la mettais dans le livre, pourrait critiquer parce qu'elle était, son corps était tellement exposé là. Nous lui avons mis une petite chose qui traverse ici. Elle n'avait qu'un petit linge, une serviette posée à travers ses hanches. Mais plus haut, il n'y avait rien. Mais nous pensions que nous allions mettre un petit morceau de papier par-dessus et photographier ça pour empêcher les gens qui n'ont pas la bonne sorte de position dans leur esprit de me critiquer pour avoir mis cette photo dans le journal. Et puis, quand le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas être déplacée et qu'elle a su que j'allais visiter l'Angleterre, elle leur a demandé de la mettre sur une civière, de la conduire dans un avion qui l'amènerait à Londres, en Angleterre. Et ils ont envoyé un infirmier à l'avion avant de venir au palais de Buckingham. Ils ont envoyé un infirmier là afin que l'on vienne prier pour elle. Et elle était si faible qu'elle ne pouvait même pas me parler. Ils ont dû lever ses mains pour les mettre dans les miennes. Vous savez comment est Londres, certains d'entre vous, les soldats qui y sont allés? C'est tellement brumeux. Je me suis agenouillé à côté d'une fenêtre. Et elle, les larmes coulaient. Elle voulait, je ne sais pas comment elle a pu même trouver assez d'humidité pour laisser venir les larmes. Ce n'était que des os, la peau par-dessus. Et ses jambes, à la hauteur des hanches, n'avaient pas plus que, selon moi, environ 2 pouces de diamètre ou 3 pouces. Ses veines étaient aplaties. Comment elle pouvait vivre, je ne sais pas. Vous avez vu sa photo plus tard. Je me suis agenouillé à côté du lit. Maintenant, elle était poussée à bout. Que je puisse venir ou non, il l'a amenée de toute façon. Et je me suis agenouillé là, mon cœur saigna au-dedans de moi, de voir la foi de cette pauvre petite créature mourante. Et j'ai prié avec tout le cœur que j'avais. Et pendant que je me commençais à prier, une petite colombe est venue. Elle vola jusqu'à la fenêtre et commença à se promener de long en large en roulant. Je pensais que c'était un animal de compagnie. Je n'étais en Angleterre que depuis environ 1 heure. J'arrivais tout juste de l'aéroport là. Et je pensais que c'était un animal de compagnie. Et quand je me suis levé, que j'ai dit « Amen », elle s'est envolée. Et j'ai commencé à demander au frère s'il avait entendu cette colombe. Il était en train d'en parler. Et quand j'ai commencé à dire « Avez-vous vu ce que signifiait cette colombe? » C'est sorti « Ainsi dit le Seigneur, tu vas vivre et non pas mourir. » Et elle vit aujourd'hui. Pourquoi? Poussée à bout. À bout, cela a conduit la femme à prendre position, vivre ou mourir. Sa détresse a fait qu'elle est arrivée là en même temps que moi. Et un signe de Dieu. Il a envoyé une colombe pour donner un ainsi dit Seigneur, poussé à bout. Cancer, la vieille Hattie à Waldrop de Phoenix en Arizona, elle montait le trottoir lors de ma première réunion. le stagiaire et son mari l'amenaient, le cancer du cœur. Elle avait pris position en essayant d'aller là-bas à la réunion, mais elle était si mal en point qu'elle ne pouvait plus respirer. Le sang retombait dans son cœur, là où le cancer avait rongé son cœur. Maintenant, un cancer du cœur, il y a de cela environ 18, 19 ans, peut-être 20, c'était en 1947. Maintenant, elle a dit à son mari et au stagiaire, « Si même si je meurs dans cette ligne, amenez-moi là, poussez à bout. » Elle a perdu conscience. Je ne pense pas qu'elle était morte. Elle a prétendu qu'elle l'était. Maintenant, elle pouvait l'être. Elle pourrait entendre cette bande, vous voyez. Bon, elle a dit qu'elle était morte. Je ne sais pas. Ils m'ont dit, il y a une femme morte qui s'en vient dans la ligne. Et quand le tour de cette femme est venu, elle était sans vie. Et quand ils l'ont amenée là, la parole du Seigneur est venue. Et je suis allé poser mes mains sur elle. Et elle s'est levée et est repartie chez elle en marchant. C'était il y a environ, je dirais certainement, 18 ans. Et elle est tout aussi en santé et vigoureuse. Elle sera à Tucson pour me rencontrer quand je serai là-bas. Poussez à bout. Même si je meurs en route, que je veux, vous m'ameniez là-bas. Il en a guéri d'autres. Il me guérira. Elle était prête. Que nos cœurs soient remplis d'amour en ce jour. Soyez sincères et poussez à bout. Après un certain temps, il pourrait être trop tard. Jairus avait une fois une petite fille qui se mourait. Il était un croyant frontalier. Il croyait Jésus, mais il avait peur de l'avouer parce qu'il l'aurait mis à la porte de la synagogue. Mais le docteur est venu un matin, il a dit, « Elle est en train de mourir. » La détresse s'est installée. Il ne peut pas se permettre, avec sa position, d'être surpris avec Jésus de Nazareth parce qu'il perdrait sa position en tant que prêtre. Mais je vous le dis, quand l'urgence s'est présentée, cela l'a poussé à bout. Je peux le voir chercher son manteau et son chapeau de petit prédicateur et l'enfiler. Le voici descendant parmi la foule qui se presse autour de lui où une femme venait tout juste de toucher son vêtement, ainsi de suite. Et tous criaient, mais il s'infiltra et dit, « Maître, ma petite fille est sur le point de mourir. Maître, maître, ma petite fille est sur le point de mourir. Si tu viens poser ta main sur elle, elle vivra. » Oh là là, être poussé à bout vous fait dire des choses parfois, vous fait faire des choses. Cela vous met en action. Sa fille a été sauvée parce qu'il était poussé à bout. Soyons poussés à bout, comme cette petite femme avec la perte de sang. La Bible a dit qu'elle a dépensé tout son argent avec les médecins et pourtant, ils ne pouvaient pas l'aider. Elle avait commencé à l'époque de la ménopause à perdre du sang et une perte de sang et cela n'arrêtait pas. Il avait peut-être vendu la ferme, les mulets, les chevaux et tout ce qu'ils avaient, mais rien ne pouvait l'aider. Et leur prêtre lui avait dit de ne pas jamais s'approcher d'une personne comme ça. Mais un matin, elle baissa les yeux. Elle vivait sur la côte, là-haut où se trouvait la ferme. Elle a eu un bon groupe de personnes qui se rassemblaient autour d'un homme en bas et elle disait, « Qu'est-ce que c'est? » On a dit, « C'est Jésus de Nazareth. » Cela l'a poussé à bout. Elle a dit, « Je suis un peu insignifiante, mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle est passée près de toutes les critiques et tout le reste. Mais alors, elle est arrivée à l'endroit où elle a touché son vêtement, poussé à bout. Et quand elle l'a senti, elle s'est retournée. Elle a dit, « Qui m'a touché? » Ils le niaient tous. Mais il a regardé autour de lui et il était nanti d'un grand don de Dieu. Il était Dieu. Et il a trouvé la petite femme et lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée, poussée à bout. Elle a fait cela. C'était la détresse qui a conduit la reine du Sud. Elle a entendu dire que le don de Dieu œuvrait à travers Salomon. La détresse l'avait conduit à cela, poussée à bout. C'était des êtres humains comme vous et moi. Il n'était pas différent de vous et moi. Il avait cinq sens. Il mangeait et buvait, et ainsi de suite, comme nous le faisons, vivons et mourons. C'était des êtres humains. Cela l'a tellement poussé à bout qu'elle a pris une partie de son royaume. Cela l'a amené au point qu'elle ne pensait pas aux Ismaélites qui la déroberaient dans le désert. C'est 90 jours sur le dos d'un chameau à travers le désert du Sahara, poussé à bout. Il y va de toute façon. Et quand elle est arrivée là, il n'y avait rien que Salomon n'ait pu lui raconter sur ce qu'elle voulait savoir. Poussée à bout. Jésus a dit, elle se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'un plus grand que Salomon est ici, poussée à bout. Pour terminer, je pourrais dire ceci. Il n'y a pas longtemps au Mexique, j'ai vu quelque chose d'accablant. Je venais d'arriver sur l'estrade là-bas, dans une grande aréna, et les gens étaient là depuis 9 heures ce matin-là. Il était près de 10 heures du soir. Un vieil aveugle, la veille, totalement aveugle depuis une trentaine d'années, reçut sa vue et faisait le tour de la ville ce jour-là en témoignant. Un tas de vêtements là, d'environ 30, 40 mètres de haut, juste de vieux châles. Il y avait peut-être 40, 50 000 personnes là-bas, et de vieux chapeaux et des châles auxquels il appartenait. Je suppose qu'ils devaient décider de cela parmi eux. Il pleuvait à verse. Ils m'ont laissé descendre par une corde, par-dessus un mur. Je suis arrivé sur l'estrade. Le ministre, l'homme qui est assis ici, l'ont amené. Lui et sa fille viennent d'arriver du Michigan il y a quelques minutes. Ils ont parlé de frère Harmon. Nous nous rappelons de celui-ci. Il est dans les rues de la gloire ce soir. Le frère Harmon était là. Il a enlevé son manteau. Il se tenait sous la pluie. Il l'a donné à frère Jack Moore pour qu'il le porte parce que Jack était gelé. Le sudiste était sur le point de congeler pour cette pluie froide du Mexique. Et voilà qu'il se tenait là. Et Billy Paul est venu me voir, mon fils, et a dit, « Papa, tu vas devoir faire quelque chose. Il y a une petite femme mexicaine là-bas avec un bébé mort qui est mort ce matin. Je n'ai pas assez d'huissier pour la garder hors de la ligne. » Si l'imposition des mains sur cet aveugle lui avait redonné sa vue, l'imposition des mains sur son bébé mort lui redonnerait la vie. Elle était catholique et elle ne pouvait pas la retenir. Et frère Espinoza et les autres lui avaient dit que nous n'avons plus de carte de prière, il vous faudra attendre encore un autre soir. Elle a dit, mon bébé est mort, il est mort depuis ce matin, je dois y aller là. Et il allait, carte de prière ou pas. Ils ont aligné environ 300 huissiers là, et elle passait simplement sous leurs jambes, ils sautaient par-dessus leur dos et couraient avec ce bébé mort et tombaient parmi eux. Ça lui était égal, elle essayait d'y arriver. Elle était poussée à bout. Dieu avait parlé à son cœur que le Dieu qui pouvait donner la vue pouvait donner la vie. Oh là là! Elle était poussée à bout, quelque chose brûlait en elle. Oh, gens malades, si vous laissiez cela brûler en vous pendant quelques minutes, regardez ce qui se passe, cette sorte de détresse. Le Dieu qui pouvait guérir ce petit garçon l'autre soir pouvait guérir cette femme du cancer, guérir cet homme et faire ceci, Mademoiselle Florence Nightingale, ou les dizaines de milliers. Lui qui fait des preuves indiscutables, ressusciter les morts et guérir les malades et tout le reste. S'il est Dieu, il peut le faire. Il était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui. Soyez poussé à bout, alors vous obtiendrez quelque chose. Ensuite, poussée à bout, elle se précipitait. J'ai dit au frère Jack Moore, j'ai dit, elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu, elle ne sait pas qui c'est ici sur l'estrade. Cette petite femme catholique, maintenant, elle ne pouvait pas parler d'un mot d'anglais, alors comment serait-elle? Qui sait? J'ai dit, descendez prier pour le bébé, et cela va la satisfaire et elle s'en ira. J'ai dit, cela ne causera. C'était justement un rugissement constant là-bas. Elle sautait et tout le monde hurlait, elle courait par-dessus leur épaule et tombait droit au milieu d'eux. Elle gagnait quelques pieds, puis elle tentait de la renvoyer. Voici qu'elle revenait en passant entre leurs jambes. Tenait son bébé, dérangeant les huissiers et tout le reste, ça lui était égal, elle devait y aller, ça ne faisait aucune différence, ce qui allait arriver, il y avait le ministre, maintenant, n'est-ce pas une histoire, tout comme le tsunami, seulement ce n'était pas il y a 3500 ans, c'était il y a environ 3 ans ou 4 ans, vous voyez, il peut se passer la même chose ce soir, quand la même détresse s'élève, qui poussera l'amour et la foi sur le front de bataille pour réclamer ce que vous pouvez, ce que vous voulez, parce que c'est une promesse de Dieu que vous pouvez l'avoir, c'est tout à fait exact. Je me suis tourné, moi, le ministre ou l'évangéliste à la place. Je me suis tourné, je me sentais désolé pour la femme, mais il n'y avait pas de détresse, voyez. Je me suis retourné, j'ai pensé, eh bien, le frère Jack priera pour elle et cela réglera la chose. Je me suis retourné, j'ai dit, comme j'étais en train de parler maintenant la foi, j'ai regardé là-bas, il y avait une vision. J'ai vu un petit bébé assis là, un petit bébé noir mexicain et sans dents. Il riait en me regardant, assis là. J'ai dit, attendez une minute. Attendez une minute. Sa détresse avait poussé le Saint-Esprit à changer mon avis, à changer mes yeux et à me montrer son bébé assis là. Cela avait ramené l'esprit. J'ai dit, attendez une minute, amenez-moi le bébé. La voici, elle venait avec une petite couverture humide, trempée, bleue et blanche, une petite forme morte à peu près longue comme ça. Elle est tombée avec un crucifix à la main ou un chapelet pour dire, c'est « Je vous salue Marie ». Je lui ai dit, serre cela, ce n'est pas nécessaire. Et elle s'est rapprochée d'où j'étais. Elle criait et hurlait « Padre », ce qui signifie « Père ». J'ai dit « Ne dis pas ça, ne dis pas ça, crois-tu ?» Et il lui a dit en espagnol « Est-ce qu'elle croyait ?» Oui, elle croyait. Il lui a demandé comment elle pouvait croire. Elle a dit « Si Dieu peut donner à ce vieillard sa vue, il peut redonner la vie à mon bébé. » Amen. La détresse l'avait menée à cela. Pas une seule chose venant de moi. J'ai simplement eu la vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai eu une vision d'un petit bébé, c'est peut-être celui-là. À ce moment-là, il a donné des coups de pied. Il a commencé à ouin. J'ai dit, suivez-la chez le médecin. Obtenez une déclaration écrite du médecin. Ce bébé était mort et le médecin a écrit la déclaration. La respiration de ce bébé, le cœur s'était arrêté ce matin-là, dans mon bureau à 9 heures, mort suite à une double pneumonie. Oh, le bébé est vivant à Mexico ce soir, pour autant que je le sache. Pourquoi? La détresse s'est installée dans le cœur d'une petite maman qui pleurait son enfant, qui avait vu Dieu faire guérir les yeux d'un homme aveugle et savait qu'il pouvait ressusciter le bébé mort. Poussez à bout. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vous écouterai. Voyez, le royaume, la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux a été prêché et l'homme use de violence pour y entrer. Vous ne vous contentez pas de dire, « Prends-moi par le collet, Seigneur, tire-moi à l'intérieur. » Vous usez de violence pour y entrer. Vous êtes poussé à bout, entrez la vie et la mort. J'aimerais avoir le temps pour une autre histoire à laquelle je pense en ce moment, d'une femme, une fille qui avait pris une mauvaise voie et comment elle avait tourné de nouvelles pages et ces choses jusqu'à ce que je lui dise, « Sœur, elle se lève et dit, je crois que je vais bien y aller. » J'ai dit, « Non, non, reste là. » Et puis la première chose qu'on a su, elle a commencé à prier un peu et puis elle priait de plus en plus. Au bout d'un moment, elle était en détresse et elle a dit, « Oh Dieu, sauve-moi! » Les alcooliques anonymes ne pouvaient pas la guérir. Rien d'autre ne pouvait le faire. Mais ses grands yeux noirs m'ont regardé, les larmes coulant sur ses joues. Elle a dit, « Il s'est passé quelque chose. » « Oh oui, oui, monsieur, quelque chose est arrivé. » Elle était poussée à bout. Soyons poussés à bout sur ce sujet, entre la mort et la vie. Si vous ne pouvez pas être poussé à bout, ne venez pas ici. Si vous êtes poussé à bout, venez ici et regardez. Vous l'obtiendrez aussitôt que vous arriverez ici. Prions. Poussez à bout. Regardez le royaume de Dieu. Il viendra sur vous. Notre Père céleste, je te prie au nom de Jésus, sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Et pousse-nous à bout. Ô Seigneur Dieu, aie pitié de nous, je prie, et laisse les gens te chercher ce soir avec des cœurs poussés à bout. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et maintenant, que ces gens qui possèdent le signe, qui sont passés de la mort à la vie, qui sont passés de l'ancienne vie mondaine à une nouvelle vie, qu'ils l'ont fait. Le sang a été appliqué et Dieu leur a donné une preuve du signe. Puissent-ils prendre ce signe entre les mains, ceux qui sont malades, et dire, « Je suis un produit racheté de Dieu. Je suis en Christ et en lui, il n'y a pas de maladie. Je suis en Christ et en lui, il n'y a pas de péché. Je suis en Christ et en lui, il n'y a pas d'incrédulité. Je renonce à tout ce que le diable m'a dit. Je prends mon signe indiquant que il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Et je détiens maintenant le signe que Dieu m'a reconnu, ce but, cette personne rachetée par le sang du Seigneur Jésus. Et je détiens le signe de sa mort entre mes mains parce qu'il est ressuscité. Je suis à lui et il est à moi. J'avance avec une foi déterminée qu'à partir de ce soir, je crois Dieu. Et je serai guéri lorsque j'arriverai là et répondrai aux exigences. Parce que les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres étaient celles-ci. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur, que la détresse s'installe, car je le demande au nom de Jésus. Amen. Je peux, je veux. Je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Oh, je peux, je veux, je crois vraiment. Je peux, je veux, je crois vraiment. Pensez un peu, je suis déterminé. Je peux, je veux, je crois vraiment que Jésus me guérit maintenant. Vous croyez cela? Je suis déterminé par la grâce de Dieu de ne jamais m'arrêter jusqu'à ce que quelque chose me frappe. et je monte là pour qu'on impose les mains. Maintenant, Dieu ne nous a jamais failli. Et je crois que le grand médecin est tout prêt maintenant. Je crois que le Dieu qui a écrit la parole, je crois que le Dieu qui a fait le sacrifice, je crois que le signe de Dieu qui nous purifie du péché ce soir, le signe, sa propre vie, est ici avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous le croyez? Je lui fais confiance. Je crois qu'il le fera, n'est-ce pas? Maintenant, dès que je commence cela, je vois apparaître des visions. Amen. De grandes visions du Seigneur qui parlent de grandes choses. Amen. Si je commence cela, nous serons ici toute la nuit. Allez-vous croire? Croyez-vous? Amen. Je le crois de tout mon cœur. La petite dame assise près de Frère Palmer, elle m'est étrangère. Elle vient de la Géorgie. Elle souffre d'un problème gynécologique. Si elle croit que Dieu va bien la rétablir, il le fera. Je n'ai jamais vu la femme de ma vie, mais c'est ce qui se passe avec elle. Cette petite femme, je ne sais pas si elle a déjà entendu le message avant ou non, mais pendant que je prêchais ici, je l'ai vue. Croyez simplement et voyez si c'est vrai. Amen. Si vous croyez simplement, c'est vrai. La femme assise ici en arrière avec des problèmes de dos souffre terriblement. Son nom est Madame Wisdom. Si vous croyez que tout votre cœur, Jésus-Christ vous rétablira. Je n'ai jamais vu la femme de ma vie, mais elle est assise souffrante. Elle porte une robe jaune. Est-ce que juste? Très bien. Sommes-nous étrangers l'un l'autre? Oui. Très bien, monsieur. Rentrez chez vous, guéris. Jésus-Christ vous rétablit. Amen. Une autre femme qui vient de saisir cela avec des problèmes de dos assise par ici. Elle a un problème de dos. Elle a un garçon. Il a des problèmes avec sa tête. C'est vrai. Madame Parker est son nom. Avez-vous cru de tout votre cœur? Jésus-Christ vous guérira tous les deux. Amen. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. C'est tout à fait exact. Amen. Croyez de tout votre cœur. Voici un homme âgé assis ici en arrière qui vient du Michigan. Il a des problèmes dans ses oreilles. Oh, il pense que des voix, un problème spirituel. Est-ce vrai? Vous croyez que vous ne savez pas si c'est Dieu ou qu'est-ce qui vous parle? Vous entendez des bruits dans vos oreilles. Je vous suis totalement étranger. Si c'est vrai, levez vos mains. Et c'est ce qui se passe. Cela ne vous dérangera plus jamais. Jésus-Christ vous rétablit. Croyez-vous? Le grand médecin. Je vous parlerai bien, mais étant de Norvège, vous ne comprenez pas la langue norvégienne. Très bien. Dites-lui de rentrer chez elle en croyant à ça. Si vous savez comment le dire, dites-lui que son problème de tête va la quitter. Maintenant, vous savez que je ne le connais pas. Il est venu ici de Norvège pour que l'on prie pour lui. Retournez. Un homme bien portant. Amen. Oh, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que c'est? C'est cette colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. C'est ce signe que Jésus-Christ vit. Et quand les gens, il y a longtemps, l'ont vu faire ces choses, il a perçu leurs pensées parce qu'il est la parole. Et la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Amen. J'ai vu de l'eau briller et ce jeune garçon qui venait, il a entendu, il a lu un livre là-bas, il a écrit en norvégien, il doit comprendre, quelqu'un lui a parlé, il a du trouble, mais s'il croit de tout son cœur, le Seigneur Jésus va le rétablir. Il a parcouru un long chemin, il a un pauvre enfant cela, essayant d'user de violence pour entrer, nous allons lui imposer les mains dans une minute. Croyez-vous? Amen. Comme c'est merveilleux. Oh là là, le grand médecin est tout prêt. Sœur, où est sœur Ungren et cette autre sœur au piano? Je veux que vous veniez rapidement, si vous le voulez, et donnez-nous la note. Ce grand médecin est tout prêt, le sympathisant Jésus. Je veux que les gens qui se trouvent dans cette allée, qui veulent que l'on prie pour eux, descendent doucement de ce côté-ci. Juste une allée à la fois, frère Neville, si vous voulez bien, ou frère Caps, c'est l'un des directeurs de cantique. Que dire si frère Ungren ou frère Caps ou quelqu'un venait ici chanter, diriger ce cantique pour nous? Si vous voulez, est-ce que frère, je trouve l'un de ses frères? Très bien, d'accord. Monsieur, c'est bon, très bien. Tout le monde en prière. Rappelez-vous, poussez en vous. Poussez à bout. Voyez ce que la détresse va faire. La détresse vous conduira outre-mer. La détresse vous conduira d'un état voisin. La détresse vous conduira n'importe où. Un vieux père précieux et sa fille poussaient à bout, essayaient d'entrer, de venir et de tout le reste et s'asseoir de toute façon. Il y a quelques instants, le Saint-Esprit a délivré la chose ici, dans la réunion juste avant que je vienne ici. Oh, le cantique le plus parfait. Jésus, Jésus. Le grand médecin est tout prêt. Le compatissant. Seigneur Jésus, accorde. Écoute la prière de ton serviteur, Seigneur. Je prie pour que tu exauces chacun d'entre eux et que tu les rétablisses pour ta gloire au nom de Jésus. La voix de Jésus. Le plus beau chant des séraphins. Le plus beau des noms sur les lèvres. Le cantique le plus parfait. Que ceux qui sont poussés à bout maintenant, qui savent vraiment que vous allez être guéris, imaginez pas autant que je le sache, 100% de dimanche soir passé ont été guéris cette semaine. Le compatissant. Surveillez, il vient, voyez, il vous a déjà guéri. Il apporte sa parole, il la confirme, il montre sa présence. Personne ne peut faire ces choses si ce n'est Dieu, vous le savez. C'est le signe du Messie. Et vous savez que je ne suis pas un Messie, alors c'est lui. Maintenant, voici, il vous a tout prouvé. Alors, cela devrait vous pousser à bout. Cela devrait électrifier cet endroit et toucher un... Non, être juste comme, un, comme une comparaison de la poudre à canon, certainement. Cela devrait faire exploser la foi et l'amour et la détresse et pousser ces gens à entrer dans le royaume de Dieu, à croire de tout leur cœur. Croyez-vous maintenant, chacun de vous? Très bien, maintenant, Billy, prends-le. Tony, regarde-moi une minute. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, mais tu es malade. Tu souffres de quelque chose comme la dysenterie. C'est vrai. Ça va te quitter. Ça va s'en aller. J'ai vu cette chose qui le suivait alors qu'il traversait là. Il n'y a rien qui puisse être caché de Dieu en ce moment. Je n'ai pas vu Tony depuis des mois. Je pense que je vois qu'il a cela. Il l'avait. Il ne l'a plus. Courbons la tête. Qu'il n'y ait aucun œil ouvert, que personne ne regarde, que tout le monde soit en prière. Et Billy Paul ou Frère Neville, l'un appellera les rangées suivantes quand ce sera le temps. Maintenant, que tout le monde soit en prière. Nous allons essayer maintenant. L'allée centrale passera à ta gauche. On te le dira de même que l'allée de gauche ici passera à ta gauche quand on vous le dira. Frère Neville vous appellera. Maintenant, je me demande si l'un des frères aimerait se tenir ici avec moi pour imposer les mains à ces personnes alors qu'elles passeront. Chacun d'entre vous, mes frères ministres, vous êtes certainement les bienvenus pour venir vous tenir avec moi si vous voulez. Ce n'est pas une chose dissociée. Vous avez le droit de prier pour les malades, tout comme moi. Je sais que le Saint-Esprit est ici. Quiconque ne voudrait pas croire cela, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Très bien. Croyons maintenant de tout notre cœur que Dieu accordera ces choses que nous demandons. Ayez la foi maintenant. Ne doutez pas. Que tout le monde prie l'un pour l'autre. Qu'est-ce que la Bible a dit? Confessons nos fautes les uns les autres. Prions les uns pour les autres.